Voilà, je vais vous lire quatre passages pour la prédication. Le premier, psaume 90, versets 9 à 12. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de la colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière la sagesse. Jean 5, verset 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Luc 10, verset 20. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Finalement, Romains 8. Les derniers versets. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
Philippe Cornu nous disait qu'il fallait crocher à l'actualité. Alors je réfléchissais à ce culte, puis tout à coup j'ai dit, mais c'est le 1er novembre. Ah mais c'est une grande fête, hein. Vous avez vu quelques photos, on en a déjà parlé ce matin, il y a un chrysanthème là-devant. C'est une grande fête pour nos amis catholiques, où effectivement ils fêtent ce qu'on dit la Toussaint. En fait c'est une fête pour les martyrs, les saints, ceux qui ont souffert pour la parole de Dieu. C'est venu un peu avec la tradition, je ne veux pas faire un message là-dessus, un peu ce qu'on appelle la fête des morts, et c'est l'occasion de se voir en famille, de se souvenir des disparus. C'est peut-être une jolie occasion, en fait, de se rencontrer, d'en parler, et de dire quelques choses, de vivre deux, trois choses autour de ces tombes ou de ces souvenirs de ceux qui nous ont précédés. Souvenirs heureux, peut-être, souvenirs moins heureux pour d'autres, je ne sais. Mais savoir que, en tout cas pour ceux que nous aimons et qui ont aimé Jésus-Christ, ils sont là-haut. Les jours de l'homme, nous l'avons entendu, seront de 70, et pour les plus robustes, à 80 ans. Alors avec mes élèves, on a toujours le maître dans la poche, c'est les menuisiers. Alors on sort le maître, puis des fois ils me disent, ouais monsieur, pourquoi j'apprends ci, pourquoi il faut faire ci. Alors je déplie le maître, comme ça, puis je mets mon doigt. Je dis, en moyenne, on vit 80 ans, hein. Alors je lui dis, vous avez quel âge? Parce que je l'ai besoin, mais alors ils me disent 16 ans, 17 ans, 18 ans. Bon. Ouais, ben t'en es là, mon Dieu. Ben t'as encore un sacré bout à faire, hein, de là jusque là. T'as encore un sacré bout à faire. J'ai dit, tu vois, moi, toi tu dois apprendre pour faire tout ça. Tu vois, moi je suis déjà ici. Tu vois, mais il me reste plus grand chose. Puis si je me tourne vers Jean-Marc, je lui dis, lui il m'a dit, j'ai 70 et quelques. Oulala! Ça se rapproche. Et toi, mon ami, quel âge tu as?
Presque
7 ans. Presque 7 ans, j'ai encore 10 bonnes années. Non, rigole. Mais c'est vrai que c'est le plus robuste 80 ans, donc on va prendre une moyenne. Toutes les années supplémentaires, mon père me disait, c'est des années de grâce, il est mort hein, dans sa 89e année. Alors voilà. Alors c'est vrai que si je prends le tout petit qui était là-bas avec sa maman tout à l'heure, lui, il est là, quoi. Hein? Et puis si je prends son père, il est déjà par là. Hein? Voilà. Les jours de l'homme sont de 70 à 80 ans pour les plus robustes. Et ce maître, tout à coup, je ne sais pas, c'est pas comme moi, mais j'entendais Morisot hier à la télévision qui disait « j'ai 60 berges ». Ben oui, j'ai eu 60 berges cette année. Et malgré tout, ce passage, la fin de la vie, j'y pense régulièrement. C'est quelque chose qui m'habite. Pas nécessairement avec le souci, mais c'est là, c'est présent. Combien me reste-t-il d'années à vivre? Alors oui, c'est vrai, j'en joue mon double mètre avec les gamins, pardon, les jeunes. Je me promets. D'un coup, je me dis, ouais, chanson, enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours. Je vois grandir mes enfants, puis maintenant mes petits-enfants. Et puis, sans arrêt, on me dit, c'est quand tu prends ta retraite? Comme si j'avais l'air d'un retraité. La retraite arrive à grands pas, c'est vrai. Dans quelques années, elle sera là. Ça me fait un peu de soucis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on sera à la retraite? Avec tout ce temps libre. Comme le Brassens, face à cette échéance, Brassens, le chanteur, et j'ai envie de chanter avec lui. Il dit ceci dans une de ses chansons, « S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. » Et ce refrain est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Ou est-ce qu'il est déjà mis en planche? Tout cela me fait réfléchir, nous fait réfléchir, je pense, et dans cette journée, le mois de novembre, les feuilles mortes, etc., qui sont encore belles sur les arbres marqués, fait réfléchir. Oui, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin de conduire nos cœurs à la sagesse. Oui, la mort peut faire peur. Elle peut faire naître en nous, en moi, une certaine angoisse. Des fois, je me surprends face à ce sentiment. Somme toute, en tout cas pour nous ici à Genève-Mérin, on n'est pas si mal dans cette vie. Il faudra bien un jour la quitter. On est bien loin du sentiment de Paul qui disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et la mort m'est un gain. » Oui, je crois que dans ce sentiment, en comptant bien nos jours, il faut préparer à partir. Il faut nous préparer à laisser tous ceux que l'on aime derrière nous. Cependant, si toute cette préparation et de se préparer à mourir un jour est important, ce qui touche nos pensées peut-être le plus, en tout cas dans mes contemporains, quand on en discute un peu, c'est bien ce qu'il y a après la mort. Ce qu'il y a après la mort, je dirais la mort naturelle. Dans un faire-part de décès que je recevais pour ma maman, j'ai lu un texte de consolation, je n'ai pas retrouvé le faire-part, mais qui disait à peu près ceci, la mort est une porte. Elle est juste de l'autre côté. Elle est juste de l'autre côté. Dans un autre faire-part que j'ai reçu pour mon père, il y avait ce texte de Victor Hugo, magnifique. Et voilà ce qu'il dit, je le cite. « Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament. Et ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme est le commencement. » Juste de l'autre côté. Le commencement, quelque chose après la mort. Pour moi, oui, assurément, je l'affirme. Lors de mes 60 ans, je m'excuse, je parle un petit peu de moi, mais dans un couplet de chansons, quelques-uns parmi vous étaient là, revus et corrigés pour la circonstance, j'exprimais mon espérance dans un de ces couplets en disant « Je suis en route pour l'aurore, l'aurore d'une nouvelle vie. En ai-je pour longtemps encore ?» Trois petits points. Au reste, quelque part, je m'en fous. L'espérance est au rendez-vous, grâce à celui qui, pour nous, est mort. Mon Dieu, mon Seigneur, le vivant, en lui, j'ai pleine confiance. Il nous mènera tous à bon port. Jésus-Christ d'abord. C'était des copains d'abord un peu transformés. Cependant, le monde essaye d'effacer la mort, met en doute plus d'un de nos contemporains aujourd'hui sur la vie après la mort. Une vie bonne ou une vie moins bonne, mais une vie après la mort. Par exemple, la technique, c'est le chat. Moi j'aime beaucoup Gueuluc, là, qui a son chat. Il exprime beaucoup de choses profondes en quelques mots. Pourquoi existerait-il une vie après la mort ? Étant donné, dit-il, qu'il n'existe pas de vie avant la vie. Et ça, j'ai souvent entendu. Avant moi, il n'y avait rien. Après moi, il n'y aura plus rien non plus. Voilà ce que... C'est un truc. Tu peux l'enlever. C'est un truc, mais... Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a cette chanson qui m'énerve. On ira tous au paradis, on ira. Les bons, les bandits, on ira. Les femmes bien, les femmes moins bien, elles iront, etc. On ira tous au paradis. Un mensonge, cette chanson. Et on l'entend à la télé, à la fin de... Parce que c'est sympa. C'est, hein? Je préfère le disque qu'on a entendu au début, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » Par son son, il efface. Hein? Mais je sais... Il y en a qui n'aiment pas quand on dit ça. Mais ça fait « Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. » Tu te rappelles, André, ce chanson? On ira tous au paradis. Ou bien alors, on entend souvent dans les conversations, à la radio, à la télé, entre nous, qu'est-ce que tu faisais dans une autre vie? Ou dans une autre vie, je ferais ceci, cela. On parle un peu de cette réincarnation. Puis bien sûr, on va revenir sur Terre, en mieux, ça c'est clair. Ou bien on était quelqu'un de bien avant, on n'était pas un esclave sous Pharaon. Bien sûr que non, on était le Pharaon. Réincarnation. Il y en a beaucoup qui croient ça, qu'on va revenir. Et puis, soit dit en passant, nos contemporains s'approprient le bon côté de cela. Mais pour ceux qui croient vraiment à la réincarnation, c'est une continuelle lutte pour mériter une meilleure réincarnation, une meilleure vie, et aborder peut-être un jour, enfin, le nirvana. En ce jour de fête catholique, précisons-le, je ne désire pas avec vous faire une étude sur la mort, le jugement, la grâce de Dieu, le péché, l'homme pécheur. Je considère que vous savez tous cela, le paradis et l'enfer. Mais simplement nous rappeler notre espérance en Jésus-Christ, recomprendre ce que cela veut dire. Évangile ou bonne nouvelle, qu'avons-nous à transmettre, à dire, à témoigner à ceux qui nous entourent? Bonne nouvelle pour le geôlier de Paul et de Silas dans la ville de Philippe, après tout ce qui s'est passé, les chaînes qui tombent, etc., etc. « Crois au Seigneur Jésus, lui dit Paul, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bonne nouvelle pour nous tous, évangile. Quand Jésus nous dit, on l'a lu dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24, quand il nous affirme, parce qu'il dit deux fois en vérité, « bien Amen, Amen », ou bien elle a lu dans une autre version qui dit « Je vous l'affirme ». Ça veut dire que c'est quelque chose qui est entendu, si c'est décidé. Amen, amen, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et tous les versets qui suivent sont quelque chose qui affirme cela. C'est Jésus qui nous le dit. Voilà donc la bonne nouvelle. On ne vient pas en jugement, on passe de la mort à la vie. Non seulement on peut vivre aujourd'hui avec notre Seigneur, et notre Sauveur. Deux images, Seigneur et Sauveur, j'avais prêché une fois là-dessus, et c'est ça, c'est l'une chose. Mais surtout, on passe du néant à la vie, et on ne vient pas en jugement. Nous ne serons pas jugés sur nos divers actes de vie, nos mérites, nos faiblesses. Oubliez tout cela. Vous y croyez? Et pourtant, que penser du prochain texte que nous allons lire dans Matthieu 25, un discours ou une parole prononcée par Jésus-Christ en personne qui s'intitule « Le jugement dernier ».
En plus du passage prévu pour certaines personnes et aussi pour répondre à Paul Robert, il y a quelques dimanches, on a entendu parler d'Abraham. Et puis, il y a un verset intéressant qui dit « Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. » Donc je ne veux pas contrarier ce qui a été dit, mais c'est pour dire qu'il faut peser et sous-peser les versets de la Bible et que on ne sait pas toujours tout dans un verset. Ce n'était pas du tout par esprit de contradiction, mais je voulais quand même citer ce verset d'Abraham.
C'était une introduction au message.
Voilà. Alors ça, c'est un passage très important, peut-être pas toujours connu de certains, et très sérieux. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
On pourrait, à ce texte, rajouter un autre que je n'ai pas voulu lire, c'est le jugement dernier, qui est un peu le pendant qu'on lit dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, où il est parlé aussi d'être inscrit dans le livre de vie, qui fait un pendant au texte qu'on a lu, où « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Voilà un texte connu, peu connu, je ne sais, moi je l'ai entendu quand même souvent, qui me pose beaucoup de questions. Une première lecture un peu rapide, 60 ans pour mettre les lunettes, semble souligner la justification par nos mérites et nos efforts, notre bonne volonté. Venez, vous les bénis de mon Père, héritez du royaume, car j'ai eu faim, soif, étranger, malade, etc. Et vous avez bien agi, bien répondu à mes besoins en le faisant au plus petit. À plusieurs reprises, dans ma vie chrétienne, j'ai pensé comme cela. Je dis, il faut faire quelque chose, il faut un petit peu travailler à son salut. D'ailleurs, c'est un texte qui le dit. C'est peut-être plus facile de faire et d'essayer de mériter, de gagner son salut, parce que je l'ai payé de ma poche, j'ai fait quelque chose, j'ai consacré du temps, de l'argent. On en est plus sûr, entre guillemets, car il est difficile de faire confiance aux promesses de Dieu en Jésus-Christ par la foi. C'est le déjà, le pas encore, on va hériter de quelque chose, mais... Et la même, voilà. Et cette même affirmation est faite à ceux qui sont à gauche, hein, ce qu'on appelle les boucs, les chèvres, dans certaines versions. J'étais nu, malade, etc. Et vous n'avez pas agi, ni répondu à mes besoins. Si c'est cela, la bonne nouvelle, j'en ai pas besoin. Je vais faire de temps à autre une BA, comme on dit aux éclairs, une bonne action, et le tour est joué. T'es d'accord, Marie ? Hein, si c'est ça la bonne nouvelle. Alors approfondissons la lecture, la compréhension de ce texte. Premièrement, l'intention de Jésus dans ce texte, dans ce récit, n'est pas de décrire tout ce qui va se passer au dernier jour. Ce texte fait suite à deux paraboles, celle des dix vierges, vous savez, les cinq sages qui ont de l'huile en réserve, les cinq folles qui y ressemblent mais qui n'ont pas d'huile en réserve, les cinq qui vont entrer avec l'époux dans le royaume et la salle et le palais, et cinq qui vont rester dehors. Et cette parabole se termine par la célèbre phrase « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et la deuxième parabole, c'est celle des talents, cette somme d'argent importante distribuée par le maître avant son départ à ses serviteurs qui sont appelés à le faire fructifier. Le maître revient et le troisième serviteur n'a rien à donner. Et la chanson tombe, enlevez-lui son talent. On donnera à celui qui a. Phrase souvent mal interprétée par ceux qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors où il y a des ténèbres, des pleurs, des grincements de dents. Jésus, par le récit du jugement dernier, désire simplement développer le dénouement de ces deux paraboles qui précèdent. Le jugement dernier. Nous voyons que les justes passent en jugement, comme les autres. Ça, c'est une contradiction avec l'évangile de Jean. Il nous est dit, il ne passera pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alors, c'est quoi ce boulot ? Non, souvent le terme de jugement signifie aussi condamnation. Il n'y a aucune condamnation, vous connaissez ce texte, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne vais pas chercher la référence, mais Anne pourrait me la donner, je suis sûr. Il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucun jugement. Donc, pour celui qui est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, il n'y a pas de condamnation. Il y a déjà la vie. Pour lui, pour elle, le Christ ne sera pas un juge, car sa destinée éternelle est déjà décidée, elle est connue, ce sera la vie. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, élus pour le royaume de Dieu. Miséricorde, cela, grâce de Dieu, grâce divine, et non œuvre méritoire. Par ailleurs, et ça m'a troublé. Par ailleurs, nous voyons que les fidèles, les justes, les brebis, bien blanches, bien propres, sont dans l'étonnement en écoutant la louange, entre guillemets, qui leur est adressée par le Seigneur. Étonnement qui se sent dans leur réponse. Quand avons-nous vu malades, etc., soif. Et Jésus leur affirme qu'ils lui ont donné à manger, qu'ils lui ont donné à boire, qu'ils l'ont accueilli, qu'ils l'ont vêtu, qu'ils l'ont visité. Jésus leur dit, vous avez fait cela pour moi. Donc c'est juste, ils l'ont fait, mais quelque part ils ne s'en rappellent pas. Pour eux, cela fut naturel, tellement leur vie a été transformée par Jésus-Christ. Que je sois comme eux. C'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Ils n'ont pas de boulier, de calculette, d'ordinateur pour additionner leurs bonnes œuvres. Oh, ça, j'ai déjà donné, hein, on a déjà entendu ça. Hein. Ils ne s'appuient pas sur leurs diverses bonnes actions pour mériter quelque chose. Et pourtant, ils les ont fait, les bonnes actions, après ce qu'on entend là. Ils font pleinement confiance à Dieu et tellement confiance qu'ils ne se rappellent même pas des bonnes actions qu'ils ont faites pour lui. Ils font confiance à Dieu et à Jésus-Christ et à ses promesses. Quand avons-nous vu ? Tombe des nues. Paul, mon ami Paul, difficile à comprendre parfois, dans l'Épître aux Romains, défend la justification de l'homme pécheur par la foi seule en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour tous. Il n'y a pas d'autre chemin. La foi seule. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, dit Paul au geôlier, à Philippe, de la ville de Philippe. Mais le même Paul nous rappelle dans la lettre aux Galates que la foi vraie est agissante par l'amour. La foi seule, mais la foi est vraie quand elle est agissante par l'amour. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui sont du domaine de la loi, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais la foi qui est agissante par l'amour. Galates 5, verset 6. La foi seule sauve. Oui. Enfin, c'est la grâce, la foi aux promesses de Dieu. Mais c'est la foi seule qui sauve. Mais la foi est vraie quand elle agit par l'amour, quand elle s'incarne dans les œuvres bonnes préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Les œuvres bonnes préparées d'avance, elles sont multiples. Elles touchent tous les domaines de la vie. Cependant, là ne sont mentionnées que des œuvres que j'appellerais sociales, humanitaires. J'ai faim, j'ai soif, visité, accueilli l'étranger, etc. On ne peut rien faire en reconnaissance à notre Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est vrai que je ne peux même pas lui laver les pieds physiquement, je ne peux pas lui dire « je t'aime, là, je le vois, je ne peux pas... » Mais on peut faire beaucoup pour lui indirectement. Hein, en faisant du bien autour de nous, socialement déjà, à l'un de ses plus petits. C'est à moi, à Jésus, qu'on le fait. Et là encore, c'est une grâce de Dieu, un don de sa part pour nous. Mais ces œuvres sociales, humanitaires, ce n'est là qu'un trait de la vie chrétienne. Ce fruit-là, qui découle de cet amour et de cette foi en Jésus-Christ, suppose bien d'autres provenant de la même source, du même arbre, du même tronc, dans ces justes qui sont là, ce fruit, ce qu'ils ont fait là, en suppose bien d'autres. Je ne peux m'empêcher d'y voir une tranche du fruit de l'esprit. Une des tranches. Hein. En avril 2008, je vous ai parlé de la beauté de ce fruit de l'esprit qui avait un avant-goût de paradis. Ce fruit est un tout, une unité, c'est le fruit. Dans ce fruit, il y a tout ça. Et tout ça, il est nécessaire pour faire ce qu'on fait les justes. Donner à manger, prendre du temps, etc. Je vous laisse la lire une fois encore. Quand Jésus-Christ s'adresse à ses brebis, en ne mentionnant que les œuvres, je dirais, que j'ai appelées sociales, dans ce texte, qui ne veut pas tout dire, hein, je dis bien, il sait qu'il s'adresse à des disciples, des fidèles, entièrement régénérés et portant le fruit de l'Esprit. C'est là que nous sommes appelés. Venez, entrez, héritez, vous les bénis de mon Père. Bonne nouvelle, pas vrai ? Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Là, ça, c'est moins sympa, hein. Maudit. Mais si vous remarquez, on dit, vous les bénis de mon Père, dit Jésus. Mais il dit maudit. Il ne dit pas maudit de mon Père, parce que bénir et pas maudire. Mais ils sont maudits par eux-mêmes, par leurs propres œuvres, ces injustes. Leur manque d'amour fraternel. Pour vous aussi, on a lu tout à l'heure, quelqu'un a dit dans sa prière, ou je ne sais plus, Jean 3, 16, oh, c'était Catherine, afin que quiconque soit sauvé. Puis après, c'est bien dit que tous soient sauvés. J'avais aussi préparé pour vous le royaume. Vous l'avez ignoré, comptant que sur vous-même. Alors, vous est réservé d'aller dans le feu éternel, qui lui est préparé pas pour vous, il est préparé pour les anges et le diable. Enfin, le diable et ses anges. Alors que penser de cela? tous ceux qui sont avant nous, avec nous maintenant et après nous, qui n'ont pas fait confiance aux promesses de Dieu, sont-ils perdus à jamais? Oui, nous dit le texte. Dans Apocalypse, on lit aussi que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, moi ça me fait mal. J'en connais des personnes, et vous aussi, qui ne se réclament pas de Jésus-Christ, mais qui ont le cœur sur la main, qui accueillent, qui visitent, qui prennent du temps, qui donnent de leur argent, qui nourrissent les plus petits, ici et au loin. Et ceci avec désintéressement, que nous-mêmes, on n'arrive pas à leur cheville. La caractéristique de Dieu, c'est qu'il est amour. Son désir, et on l'a lu dans le texte que Catherine nous a dit, Jean 3, 16 et 17, c'est que tous soient sauvés. J'ai de la peine, franchement, moi j'ai de la peine à imaginer ce Dieu qui est amour, comme un père, quelqu'un a dit sa prière, merci parce que tu es notre père, tu t'es présenté à nous comme ton père, je crois que c'est Reynolds qui a dit ça. Eh bien, qu'il rejette toute une partie de sa créature. Dernièrement, je lisais dans Samuel l'histoire de David, et puis voyez ces milliers de soldats qui meurent, 50 000 par-ci, 30 000 par-là, 45 000 ailleurs, tous des jeunes gars. Ils vont aller où, ceux-là? Puis les 10 Américains, là, ou les autres qui sont morts en Irak. Ils, vous voyez, moi, ça me pose un problème, quand même. Hein. Un jugement aura lieu. Ils rassemblent pour juger. Qui du jugement dit analyse des faits, des actes de chacun. David Wenger, il y a deux dimanches en arrière, nous avait lu un texte, un psaume 98. Et puis, quand je réfléchissais déjà un peu à ce culte, tac, il y a quelque chose qui m'a touché. C'est les deux derniers versets qui dit « Il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec droiture. » Un jugement aura lieu. Et je pense qu'il va juger avec justice et droiture. Certains, ne se réclamant pas de Jésus, soit par ignorance, par incompréhension ou d'autres choses, rejoindront-ils les justes dans leur superbe destinée du royaume? Dieu seul le sait. C'est une question que je pose et je me réjouis de la lui poser. Alors qu'est-ce que la bonne nouvelle? L'évangile a annoncé à tous ceux qui sont près de nous, déjà, on ne fait pas grand-chose ici mais entre nous, hein. C'est la certitude qu'il n'y a plus de condamnation, qu'on passe de la mort à la vie. Il n'y aura pas de jugement sur nos faits, sur nos actes, sur nos œuvres plus ou moins bonnes, sur nos pensées, sur... On est passé de la mort à la vie. C'est le... On vit déjà et pas encore. Hein. On est déjà sauvé, mais c'est quand même en promesse. Et c'est ça, l'Évangile, à transmettre. Tu peux être sûr de ton salut. J'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie, disait le chant. Je ne l'ai pas choisi pour rien. Évangile, bonne nouvelle. Je relis trois derniers versets. Celui qui croit en l'œuvre de Jésus pour lui, la fait sienne, ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean, chapitre 5, verset 24. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce que je m'en réjouis? J'ai des fois de la peine face à ces sentiments que je parlais tout à l'heure. Parce que j'aime bien, moi, mes gamins, hein, et tout ce qu'on vit par là. Rien. Non, rien. Pour toi aussi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, sur la croix. Romains 8. Quel plus beau message, mes amis, pouvons-nous transmettre à nos contemporains en ce jour de la Toussaint. Amen.